Nous voici en cette sixième rencontre du catéchisme pour adultes. C'est notre rencontre de conclusion sur ce cycle que nous avons consacré au sacrement de la confirmation et à une meilleure connaissance de Dieu, le Saint-Esprit. Je prends quelques numéros du catéchisme de l'Église catholique, numéro 1302 à 1305, un petit passage qui va nous permettre pour nous de résumer ce que nous avons vu les semaines précédentes, qui s'appelle « Les effets de la confirmation ». Alors je lis et je commente ce paragraphe. « Il ressort de la célébration que l'effet du sacrement de confirmation est l'effusion spéciale de l'Esprit-Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. » Donc en ce court numéro, le catéchisme de l'Église catholique fait vraiment le lien entre le don que le Christ a fait de l'Esprit-Saint au jour de Pentecôte à son Église par les apôtres, et bien à cette Pentecôte particulière qui est réservée à chaque chrétien au jour de sa confirmation. On avait vu que l'Esprit-Saint n'est pas au sens strict donné au jour de la confirmation, puisqu'il est déjà donné au jour du baptême, mais que sa présence est confirmé en nous et que là, il décuple toutes ces grâces de sanctification. Ce court paragraphe parle d'une effusion spéciale de l'Esprit-Saint qui fond sur nous en ce jour-là et qui nous permet véritablement d'être un chrétien adulte, un chrétien qui est un priant, parce que la prière est ce qui unit notre âme à Dieu. Donc c'est déjà important de voir, c'est pourquoi chaque fois que nous faisons la fête de Pentecôte, nous renouvelons en nous le don de l'Esprit-Saint et il y a la séquence du jour de Pentecôte, la prière du Veni Sancte Spiritus que nous allons commenter dans quelques instants, qui est là justement pour demander à l'Esprit-Saint de venir répandre en nous ces dons, de venir comme il l'a fait au jour de Pentecôte, en ce jour où nous faisons mémoire du don de l'Esprit-Saint, renouveler en nous toute sa présence sanctifiante. Donc, chaque année à Pentecôte, nous faisons mémoire du don de l'Esprit-Saint, un peu comme au jour de la veillée pascale, nous faisons mémoire du sacrement du baptême. Le catéchisme de l'Église catholique poursuit au numéro 1303 par un résumé. De ce fait, la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. Et il y a deux points, et on va énumérer en quoi la confirmation nous permet de croître et en quoi c'est un approfondissement de la grâce baptismale. Le catéchisme poursuit, elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire « Abba, Père ». C'est saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 15, qui nous dit que nul ne peut appeler Dieu Abba Père sans que ce ne soit le fait de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, il est véritablement l'esprit d'adoption et d'adoption filiale. Nous avons eu l'occasion de dire en ce catéchisme que Dieu a un unique dessein, il veut faire de nous des fils. Ce que le Fils de Dieu est par nature, le Fils du Père, nous avons, nous, à le devenir par la grâce. Nous avons à devenir enfants de Dieu, enfants du Père. Et cet esprit d'adoption, c'est l'Esprit Saint qui à la fois nous permet d'appeler Dieu Père, qui nous fait entrer dans cette relation filiale. Et c'est le même Esprit Saint, nous dira saint Paul, qui nous permet de reconnaître que Jésus et le Christ, l'envoyé, celui qui a reçu l'onction, comme nous d'ailleurs, au jour de la confirmation et du baptême, mais également qui est cette force de l'Esprit de Dieu qui demeure en nous et qui du coup habite véritablement son Église. Donc du coup, ce premier point est important, la confirmation nous enracine plus profondément dans la filiation divine, l'Esprit-Saint est au service de cet unique dessein de Dieu, faire de nous des fils. C'est vraiment le grand dessein de Dieu et c'est dire l'immense dignité qui est la nôtre par les sacrements d'être reconnus comme enfants de Dieu. Nous avons été enfantés à la vie de la grâce au jour de notre baptême et nous sommes enfants de Dieu et à ce titre héritiers de Dieu. Le fils est héritier de ses parents et héritier de Dieu, héritier de ses promesses qui ne sont autres que la vie éternelle en paradis. Voilà qu'en paradis, nous serons vraiment fils du Père. Nous serons fils comme le Verbe de Dieu et le Fils engendré du Père. Et tout cela dans l'Esprit Saint. Le second point que développe le catéchisme en nous disant donc de ce fait la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. Le deuxième point, la confirmation nous unit plus fermement au Christ. Et ce mot fermement est important puisqu'on a vu que l'Esprit Saint vient en nous donner une force. Donc l'Esprit Saint, il nous unit davantage au Christ. Par le sacrement du baptême, nous sommes comme incorporés à notre Seigneur Jésus le Christ, c'est-à-dire que nous devenons membres de l'Église. Le mystère de l'Église, ce n'est pas simplement la hiérarchie du pape, des évêques, des prêtres, ce n'est pas seulement l'ensemble de la hiérarchie et du peuple des fidèles. Le mystère de l'Église, c'est que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et lorsque les Saintes Écritures se referment, il y a cette invocation, l'Esprit Saint et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». C'est ainsi que se referment les Saintes Écritures, Maranatha, hein, « Viens, Seigneur Jésus ». C'est important, à la fois les Écritures s'ouvrent au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et se referment, l'Esprit Saint et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus, nous sommes dirigés vers le retour du Christ ». Mais si, par le sacrement de la confirmation, est confirmée en nous la grâce baptismale, eh bien, voilà que nous sommes bien plus unis au Christ et que cette union, c'est que nous sommes vraiment membres de l'Église, membres de ce corps. Vous connaissez l'image de saint Paul qui compare l'Église au fonctionnement d'un corps humain. On nous dit bien que le Christ est la tête de l'Église, que nous sommes les membres de ce corps et qu'il n'y a pas une partie du corps du Christ qui peut dire à l'autre « Je n'ai pas besoin de toi ». Nous avons au contraire à mettre tous nos talents à l'école de l'Esprit-Saint au service de ce bien commun qui est l'Église cheminant vers le Christ qui vient, le Christ qui revient. Soit nous, nous allons à lui, soit il reviendra ici-bas pour juger, comme nous le disons dans le Credo, les vivants et les morts. Cette union au Christ si importante, c'est donc que nous sommes reconnus comme membres de l'Église et donc comme épouse de notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pour l'Église, c'est-à-dire le peuple des baptisés, que le Christ a offert sa vie sur le bois de la croix pour que tous nous soyons sauvés. Donc la confirmation nous unit plus fermement à notre Seigneur Jésus le Christ. Il ne faut pas oublier que dans l'Évangile, plusieurs fois, on nous dit que le Seigneur Jésus est assisté de la puissance de l'Esprit Saint. C'est aussi l'image que nous avons au jour du baptême, où la voix de Dieu se fait entendre, mais où l'Esprit Saint plane au-dessus du Seigneur Jésus. Eh bien, nous aussi, voilà que nous sommes pris dans cette effusion de l'Esprit Saint, que nous sommes unis au Christ, on peut dire par l'Esprit Saint, qui nous unit dans l'Église. Ensuite, le catéchisme nous dit que cette confirmation qui apporte croissance et approfondissement, eh bien, elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé des dons de l'Esprit Saint, de ces 7 dons. Je ne vais pas les reprendre ici, mais on voit bien combien cette vie, qui est la vie chrétienne, eh bien, devient une vie spirituelle, puisque c'est l'Esprit Saint, nous dit saint Paul, qui vient prier en nous, car, reconnaît l'apôtre, nous ne savons pas prier comme il faut. C'est saint Paul qui nous dit, je l'ai dit tout à l'heure dans l'Épître aux Romains, que nous nous adressons à Dieu par des cris inexprimables, « Abba, Père ». Vraiment l'esprit d'adoption. Et ces dons que l'Esprit Saint nous donne ne sont pas seulement faits égoïstement pour nous et notre vie spirituelle. Je résume ça comme « mon petit Jésus et moi ». Parce qu'on peut avoir parfois dans l'Église cette tendance, ma vie spirituelle, mon petit Jésus et moi, il peut arriver ce qu'il faut dans le monde, je n'en ai rien à faire. Non, le Seigneur nous a placés dans le monde en nous disant vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Le sel, c'est un conservateur, donc nous avons à conserver tout ce que le Christ a dit, à l'image de la bienheureuse Vierge Marie, elle qui est demeurée toujours à l'ombre du Puissant, à l'ombre du Saint-Esprit, dont saint Matthieu nous dit qu'elle garde et médite chacun des événements de la vie du Christ. Voilà ce qu'est le chrétien dans le monde, le sel de la terre, il conserve tout ce que le Seigneur lui a donné de ses mystères de foi à l'école de l'Esprit-Saint qui le conduit à travers l'Église vers la vérité tout entière. On est le sel de la terre, mais aussi la lumière du monde, c'est dire que nous avons à irradier de cette union plus ferme avec le Christ et que ces dons que l'Esprit-Saint manifeste en nous ne sont pas que pour nous, mais au service du corps entier de l'Église, au service également du genre humain qui chemine vers le salut, vers la vie éternelle. Vous voyez que cette confirmation, elle nous place véritablement au cœur du monde, comme les envoyés du Seigneur. Le chrétien est un chrétien adulte par la confirmation. Il ne lui manque rien. Donc, est augmenté en nous les dons de l'Esprit-Saint. Le catéchisme précise « augmenter » puisque nous avons vu que nous recevons quand même l'Esprit-Saint au jour du baptême. Mais là, voilà qu'il y a cette effusion spéciale. Ensuite, le catéchisme dit « elle rend notre lien à l'Église plus parfait ». Ben oui, nous devenons un parfait chrétien en ayant reçu les trois sacrements de l'initiation, baptême, confirmation et l'accès à la Sainte Eucharistie. Eh bien voilà que notre lien à l'Église est beaucoup plus manifeste. Non seulement parce que j'ai les dons de l'Esprit-Saint, parce que j'ai reçu une formation chrétienne, parce que l'Esprit-Saint m'assiste, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a fait la confirmation, on a les doigts de pied en éventail et que nous savons tout. Il ne s'agit pas pour nous, comme les apôtres l'ont eu, d'avoir la science infuse, cet Esprit-Saint qui donnait véritablement les lumières aux apôtres pour connaître en profondeur les mystères de la foi. Nous avons toujours à être à l'école du Seigneur, à l'école de ses saintes écritures, à l'école de la tradition de l'Église, mais voilà que nous sommes des chrétiens parfaits, il ne nous manque rien, nous sommes véritablement chrétiens. Le lien à l'Église est manifesté, à la fois parce que nous sommes membres du corps du Christ, mais aussi parce que c'est l'évêque qui nous a donné ce sacrement. Alors bien sûr, nous avions vu qu'il pouvait y avoir d'autres ministres à ce sacrement, que l'évêque peut déléguer un prêtre. Mais ce lien qui est avec l'évêque manifeste bien que je suis un chrétien adulte. L'évêque s'adresse à moi comme l'évêque s'adresse après à ses prêtres qui sont ses collaborateurs. Et c'est le second concile du Vatican qui insiste bien sur ce point pour bien nous dire que le chrétien, il est envoyé dans le monde. Il ne faut pas croire que la sanctification, devenir saint, est réservée aux religieux, aux religieuses ou aux prêtres. Non, nous sommes tous appelés à cette sainteté, quel que soit notre état de vie. Et bien voilà que l'Esprit-Saint développe en nous ses dons et que nous sommes envoyés dans le monde. Donc notre lien à l'Église est plus parfait, plus mature, et puis du coup l'Église peut également nous envoyer en mission. Ensuite, le catéchisme conclut, la confirmation accorde une force spéciale de l'Esprit-Saint. Nous avons vu que le sacrement imprime en nous un caractère, donc il ne peut pas se confondre avec un autre sacrement. Et bien cette grâce, cette force spéciale de l'Esprit-Saint nous est donnée, pourquoi ? Pour répandre et défendre la foi. Comment est-ce que je répands et je défends la foi ? Eh bien, par la parole et par l'action, parce que la confirmation fait du chrétien un véritable témoin du Christ pour pouvoir confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de honte à l'égard de la croix du Christ. Et le catéchisme cite ici saint Ambroise, le grand docteur de Milan, qui nous dit ceci : « Rappelle-toi, chrétien, donc, que tu as reçu le signe spirituel. » Et sous le mot spirituel, il faut entendre spiritus, l'Esprit Saint. Rappelle-toi donc, chrétien, que tu as reçu le signe spirituel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de piété, l'esprit de la sainte crainte. On a reconnu là les dons de l'Esprit Saint. Et garde, exhorte saint Ambroise, ce que tu as reçu. Oui, il faut garder ce que l'on a reçu, puisque le péché apporte toujours une ombre au tableau et qu'en nous confessant, non seulement nous retrouvons l'état de grâce, mais nous retrouvons, si vous voulez, l'Esprit-Saint pleinement agissant en notre âme. Le péché nous éloigne de cette amitié avec Dieu. Lorsque je me reçois l'absolution de mes fautes, non seulement le bon Dieu me pardonne, mais est rétabli en moi cet état de grâce et l'Esprit-Saint, nous y sommes beaucoup plus perméables, beaucoup plus malléables en étant en état de grâce. Enfin, saint Ambroise conclut, « Dieu le Père t'a marqué de son signe, le Christ Seigneur t'a confirmé et il a mis en ton cœur le gage de l'Esprit-Saint. C'est une très belle formule, je vous ai dit, l'Esprit-Saint, c'est vraiment l'esprit d'adoption. Donc c'est beau de penser qu'à travers l'évêque, c'est Dieu le Père qui t'a marqué de son signe. Parce que le signe, c'est le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction. On parle du roi David dans les Saintes Écritures comme du Christ, c'est-à-dire il est loin, O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction. Donc il agit de la part de Dieu. De même, le prophète a reçu l'onction, il parle de la part de Dieu. Et là, saint Ambroise nous dit bien, Dieu le Père t'a marqué de son signe, parce que ce signe, c'est le Christ. Nous sommes appelés chrétiens parce qu'il y a le Christ. Mais nous avons, nous aussi, été marqués de cette onction. Et là, on retrouve bien cette idée présente dans les Saintes Écritures, qu'il y a l'Esprit de Dieu, mais que viendra un temps, dans l'Ancien Testament, cela est espéré, où ce n'est pas simplement les patriarches, ni plus seulement les prophètes qui seront inspirés, mais ça sera le peuple entier qui sera inspiré. Et voilà ce qui se passe à Pentecôte, à travers les apôtres. Et bien voilà que tous nous sommes un peuple inspiré directement par cet Esprit de Dieu qui repose sur nous. Vous vous rappelez peut-être le passage de l'Évangile, quand Jésus retourne dans la ville de Nazareth, il entre au jour du sabbat dans la synagogue, il lit ce passage du prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, car l'Esprit m'a consacré, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la libération, la mobilité aux paralysés, la vue aux aveugles, etc. » Et le Seigneur de dire « C'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit ». Aujourd'hui, cette parole s'accomplit pour le Christ, qui est vraiment celui qui a envoyé. Il est la bonne nouvelle, il est l'Évangile, il est l'auteur de notre salut. Mais voilà que nous sommes également son peuple. Et parce que nous sommes membres de l'Église, membres de l'épouse du Christ, eh bien voilà que cet Esprit-Saint nous est communiqué et qu'entre l'Esprit-Saint et l'Église, il y a une union, l'union sponsale de l'amour de l'époux et de l'épouse, qui nous permet d'être déjà dirigés vers le retour du Christ. L'Esprit Saint et l'Église disent « Viens, Seigneur Jésus ». C'est ainsi que se referment les Écritures. C'est vraiment cette espérance que nous avons qu'enfin arrive le règne de Dieu, qu'enfin vienne ce jour où nous serons tous unis dans la patrie. Donc, Dieu le Père t'a marqué de son signe. Le Christ t'a confirmé et il a mis en ton cœur le gage de l'Esprit Saint. Saint Paul le dit sans embâge, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est très important de penser qu'en notre âme, il y a l'Esprit Saint qui repose en nous. Cette vie chrétienne, ce n'est pas seulement nous-mêmes, ce n'est pas simplement moi, c'est véritablement l'Esprit Saint en moi. On retrouve ça dans l'attitude de Saint Jean-Baptiste, quand Saint Jean-Baptiste, accueillant le Christ, dit « Il faut que moi je diminue et que lui grandisse ». Bien voilà ce que la difficulté de la vie spirituelle, c'est avoir suffisamment d'humilité pour décroître, éteindre notre orgueil, pour laisser au contraire le Christ advenir en nous par l'Esprit Saint. Il fait de nous ses propres fils et décuple du coup ses dons dans l'Église. Voilà donc pour la citation de saint Ambroise. Le catéchisme conclut « Comme le baptême, dont elle est l'achèvement, la confirmation est donnée une seule fois, nous l'avons vu. La confirmation imprime en effet dans l'âme une marque spirituelle indélébile qu'on appelle le caractère, tout cela n'a plus de secret pour vous, qui est le signe de ce que Jésus-Christ a marqué un chrétien du sceau de son esprit en le revêtant de la force d'en haut pour qu'il soit son témoin. » Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que nous avions vu sur la marque spirituelle indélébile, mais c'est important de bien voir que, à partir de la confirmation, nous appartenons également à Dieu, le Saint-Esprit. C'est le Christ qui nous a véritablement marqués de son sceau. C'est d'autant plus important que, en tant que tel, le rituel de la confirmation est extrêmement simple, extrêmement rapide. J'ai pu y assister dimanche dernier, il y avait des confirmations à Lannemezan, et c'est vrai que c'est très rapide, c'est l'imposition des mains. Et ensuite, il y a cette onction qui a été rajoutée. Alors bien sûr, on invoque l'Esprit-Saint, mais somme toute, c'est extrêmement simple. Et cette simplicité peut être déroutante. C'est pourquoi la liturgie développe toujours ce que les gestes très simples peuvent donner. La messe, nous sommes habitués, si vous voulez, à recevoir le Seigneur dans ce peu de, d'eau et de pain. Mais à bien y réfléchir, que sont un peu de farine et d'eau hein, pour recevoir ainsi la présence du Christ ? Pas grand-chose. C'est un petit peu comme ce général Naaman le Syrien qui vient voir le grand prophète Élie. Il est atteint d'une forme de lèpre de sa peau. Et le prophète Élie lui dit, bien, allez donc vous baigner cette fois dans le Jourdain. Et le général est un peu vexé parce qu'il se dit, mais d'abord non seulement j'ai des fleuves dans mon pays, mais allez, qu'est-ce qu'a le Jourdain de plus ? Il s'attendait à des choses extraordinaires. Et c'est un des conseillers du général qui lui dit, mais le prophète Élie vous aurait donné des choses très compliquées à faire, vous les auriez faites. Allez donc, avec simplicité, vous baigner cette fois dans le Jourdain. Et c'est ainsi qu'il est sauvé de la peste. Tout ça pour dire que Dieu agit un peu comme contre rebours de la logique du monde. On voudrait toujours que quand Dieu se communique, il le fasse de façon très compliquée. Or, en fait, Dieu est très simple. Voilà qu'il y a le geste de l'imposition des mains par l'évêque ou le prêtre son délégué. Et ensuite, il y a cette onction qui est marquée. Et voilà que l'Esprit Saint est en nous. Bien souvent, nous nous compliquons beaucoup les choses alors qu'en fait, Dieu agit avec une grande simplicité puisqu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Et les parents, je ne vois pas pourquoi, ils aimeraient toujours compliquer la vie de leur enfant. On les aime avec cette simplicité de cœur et d'amour. Et c'est ainsi que Dieu se donne. Enfin, le caractère, nous dit le catéchisme dans son dernier paragraphe, le caractère perfectionne le sacerdoce commun des fidèles reçus dans le baptême et le confirmé reçoit la puissance de confesser la foi du Christ publiquement et comme en vertu d'une charge, quasi ex officio, hein, comme s'il s'agissait d'une charge. Alors j'explique ce dernier paragraphe. Dans le paragraphe, il est question du sacerdoce commun des fidèles. Alors, sacerdoce, on entend le prêtre. Oui, par le sacrement du baptême, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes configurés à notre Seigneur Jésus le Christ. Il est le prêtre, il est le prophète et il est le roi. Et nous participons tous, en tant que baptisés, confirmés, nous participons à ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Nous sommes, si vous voulez, par notre baptême, tous prêtres. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu que par le Christ, nous puissions directement nous adresser à lui. Nous n'avons pas à aller voir un intermédiaire pour nous adresser à Dieu. Nous pouvons prier. C'est une grande liberté, mais ça montre aussi la dignité du chrétien. Nous pouvons nous adresser directement à Dieu, et on pourrait même dire en esprit, puisqu'il y a l'Esprit Saint, et en vérité, puisqu'il nous conduit vers la vérité tout entière. Voyez comment ce don de l'Esprit Saint est pris au sérieux. Nous sommes prêtres car nous pouvons intercéder pour le monde parce que nous avons un accès direct à la divinité, comme on aurait dit dans les temps anciens, j'ai un accès direct à Dieu. Je suis prophète aussi parce que l'Esprit Saint vient en moi et puis va agir d'une façon prophétique. C'est un petit peu sur ce que veut nous dire le catéchisme en disant que l'Esprit Saint nous envoie porter dans le monde le témoignage du Christ, et c'est le droit canon qui est cité, comme en vertu d'une charge. C'est bien que l'Église, elle compte pas simplement sur son bataillon de prêtres, de religieuses et de religieux pour aller évangéliser le monde, elle compte tout autant sur les fidèles que nous sommes. De par notre baptême, nous sommes prêtres, nous pouvons intercéder. Je suis prophète, l'Esprit Saint passe en nous aussi pour nous inspirer. Souvenez-vous ce que nous dit le Seigneur, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on vous demandera témoignage de votre foi, hein, l'Esprit Saint répondra, hein, il sera là. Et prêtre, prophète et roi, parce que nous appartenons déjà à ce royaume de Dieu. Nous prions pour que le règne de Dieu vienne, mais ce règne de Dieu n'est autre que le Christ. Et nous appartenons au Christ par le baptême, nous appartenons à l'Esprit Saint véritablement par la confirmation. Vous voyez de quel amour finalement nous sommes aimés pour que le bon Dieu ait voulu une Église aussi adulte, aussi mature. Et il faut sortir de notre tête l'idée que le pape, les évêques, les cardinaux, les prêtres, seraient mieux placés pour s'adresser à Dieu. Alors, ils ont eu, bien sûr, des études de théologie. Ils ont un ministère à remplir dans l'Église, cela est vrai, le ministère de la prédication, de la sanctification et le gouvernement de l'Église, oui. Mais le chrétien, ça ne serait pas quelqu'un de boiteux qui devrait être perfectionné par le prêtre. Nous, le bon Dieu a voulu que nous ayons cette perfection hein, de don pour nous adresser à lui. C'est dire aussi l'intimité que le Seigneur veut à travers nous. Nous avons entendu dimanche le Christ dans l'Évangile appelé Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? Non pas une fois, mais trois fois. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci, plus que les autres apôtres ? Hein, et le Seigneur attend de nous un amour exclusif. Il veut être notre Dieu et il veut que nous mettions à bas les idoles. Ensuite, il a reposé la même question, c'est toujours le mot agapé dans le texte. M'aimes-tu vraiment ? Hein, voyez combien l'Esprit Saint qui nous conduit à la vérité vient pour purifier en nous cet amour qui nous unit toujours davantage au Christ. Et la troisième fois, le Christ qui repose pour nous en français la même question, en grec utilise un autre mot. Pierre, m'aimes-tu ? Il utilise le mot philein, m'aimes-tu d'amitié ? Et j'ai commenté dans l'homélie dimanche que justement cette amitié, c'est ce que le Seigneur dit aux apôtres dans sa longue prière sacerdotale de mémoire au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean, en disant « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que veut son maître, il obéit. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai communiqué. » Alors il le dit aux apôtres. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et la dernière question est décisive. Est-ce que nous sommes vraiment amis, Pierre ? Et si Jésus pose la question trois fois à Pierre, c'est parce que celui-ci, qui est le chef de l'Église, l'a renié trois fois. Et si je commente ça, c'est pour bien montrer justement que nous aussi, hein, le Seigneur veut faire de nous, non pas simplement des serviteurs, mais il veut faire de nous ses amis, nous faire rentrer dans l'amitié avec Dieu. Et cette amitié, je vous l'ai dit, c'est le nom de la grâce. Souvenez-vous, quand nous avons commenté la Genèse et que nous voyons Dieu, le soir, à la brise légère, descendre dans le jardin, c'est l'image de la grâce, cette amitié que Dieu veut avec nous. Alors nous avons, nous, de par le péché, de par nos idées, des idées de divinité quasi inaccessibles, mais le christianisme, c'est vraiment cette grande proximité d'avec Dieu. Alors, il y a dans l'Église, c'est la deuxième partie de notre catéchisme, deux prières fondamentales qui sont des prières d'invocation de l'Esprit-Saint. Il y a tout d'abord cette prière qu'on appelle le Veni Creator Spiritus, qui de mémoire est extrait, c'est une hymne si vous voulez, qu'il y a dans les Vêpres au jour de Pentecôte, qui peut être repris également dans l'octave de Pentecôte. Et puis, il y a la seconde prière importante qui prend place juste avant l'Évangile au jour de Pentecôte, le Veni Sancte Spiritus, qui vous est peut-être plus familière pour ceux qui sont au catéchisme en présentiel, comme on dit, on va utiliser les nouveaux mots, puisque nous chantons toujours le Veni Sancte Spiritus avant notre enseignement. Alors, commençons par le Veni Creator. Première strophe du Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Ne serait-ce que le titre, Créator, nous permet de bien comprendre que l'Esprit Saint était présent, agissant, sanctifiant dans l'œuvre de création. On peut dire, le Père a comme l'idée de la création, le Verbe de Dieu, c'est celui qui dit et cela est, mais il y a l'Esprit Saint qui se réjouit. Dieu vit que cela était bon. Cette conclusion, si vous voulez, hein, c'est cet amour de communion, c'est l'Esprit Saint qui exulte parce qu'il voit qu'entre ce que Dieu a pensé et ce que le Verbe a dit et réalisé, tout cela est bon. Et puis, hein, cet Esprit Créateur qui nous a façonnés, quand l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne dit plus seulement que cela est bon, et Dieu vit que cela était très bon. Nous sommes marqués par cette grande bonté d'avec Dieu avec laquelle nous avons été créés. Donc cet hymne commence hein, en nous parlant que vraiment cet esprit qui plane sur les eaux, l'Esprit Saint, est bien présent dans la création et nous lui demandons de visiter l'âme des fidèles. Le mot fidèle est important. Autant je n'aime pas du tout le mot laïque, parce qu'alors ça, nous, on a toujours cette expression, alors dans ces années d'après-concile, d'une forme d'opposition stérile entre les prêtres et les laïcs. Le mot fidèle est magnifique, puisque fides en latin veut dire la foi. Nous sommes des fidèles parce que nous sommes animés par la foi, et celui qui anime Hein, parce que animer, ça a donné anima, le mot âme. Donc visite l'âme de tes fidèles, mais c'est vraiment que nous sommes animés par la foi, et celui qui vient animer la foi, c'est vraiment l'Esprit Saint. Donc emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Souvenons-nous dans le jardin d'Éden, hein, quand Dieu a façonné Adam dans le second récit de création, voilà qu'il lui insouffle le souffle de vie. Hein, bien voilà que nous avons reçu nous aussi ce souffle de vie particulièrement confirmé en nous au jour de la confirmation où l'Esprit Saint vient vraiment dans notre âme et l'âme elle est là pour ça, pour être ainsi animée par l'Esprit Saint. Seconde strophe. Toi que l'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Donc, le conseiller, hein, c'est aussi un des noms de l'Esprit-Saint. Le Seigneur nous dit aussi que c'est le paraclet, le défenseur, mais c'est aussi le conseiller. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller, c'est le cas de le dire, hein, lorsqu'on commence un temps de prière, eh bien, d'invoquer l'Esprit-Saint parce qu'il est le maître de la vie spirituelle, de cette vie intérieure. Et lorsque nous avons comme ça des décisions difficiles à prendre, et parfois nous n'avons pas un temps de décision très long à prendre, il faut vraiment invoquer l'Esprit-Saint parce qu'il est le conseiller, parce qu'il est à l'excellence l'esprit de discernement qui nous permet d'y voir clair quand pour nous tout est un peu confus. Donc toi que l'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, puisque c'est Dieu qui se donne à nous, source vive, feu, charité, donc ça, c'est, nous avons là déjà une image, hein, que l'Esprit-Saint est une source, et puis une source vive, c'est le feu, comme nous l'avons à l'image de Pentecôte, et puis c'est la charité, c'est l'amour, hein. N'oublions pas que l'Esprit-Saint, c'est l'amour qui unit et le Père et le Fils, un amour de communion. Troisième strophe. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspire nos paroles. Alors tu es l'Esprit aux sept dons, je n'y reviens pas, les sept dons du Saint-Esprit. Il y a ensuite une image, hein, n'imaginons pas, Dieu n'ayant pas de corps, ce n'est pas vraiment un doigt, l'Esprit Saint, pas plus que c'est une colombe ou ça serait une flamme. Hein. Le doigt de la main du Père pour montrer que Dieu agit par l'Esprit Saint. Et vous remarquerez que toutes nos prières se terminent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vise et règne dans l'unité du Saint-Esprit, dans l'unité du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est toujours là. C'est l'unité, cette unité divine. Donc du coup, il est le doigt de la main du Père, c'est l'image, hein, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu aussi qui nous indique la voie à suivre, l'Esprit de vérité. Nous nous souvenons, le Seigneur Jésus nous dire, hein, « Je vous enverrai l'Esprit Saint, il vous conduira vers la vérité tout entière, promis par le Père. » C'est vrai, bien souvent Jésus dit « L'Esprit Saint vous est promis, le Père va vous le donner » ou dans d'autres passages de l'Évangile, « Je vous enverrai moi-même l'Esprit Saint, étant donné que l'Esprit Saint procède et du Père et du Fils, et le Père peut l'envoyer et le Fils lui-même. » C'est une œuvre conjointe, ils nous ont envoyé l'Esprit Saint. Enfin, la dernière phrase, c'est toi qui inspires nos paroles, n'imaginons pas toutes nos paroles, nous ne sommes pas les ventriloques du Saint-Esprit, mais c'est toi qui inspires nos paroles quand justement nous avons des paroles inspirées, c'est-à-dire des paroles où on se demande mais d'où cela m'est-il venu, d'où cela me sort-il, d'où cela me vient-il ? Eh bien de cette force vive, de ce feu, de cette charité qui nous vient de Dieu. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Alors là, vous comprenez que c'est l'âme chrétienne qui s'adresse à l'Esprit Saint dans la persévérance et la constance de la vie ordinaire. Allume en nous ta lumière, elle a été allumée bien sûr au jour du baptême et la flamme ravivée au jour de la confirmation. C'est pas que l'Esprit Saint ne brille pas, mais c'est que nous qui nous ternissons, hein, et nous avons à raviver cette lumière, c'est ce que nous lui demandons. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Autre mission de l'Esprit Saint, repousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Quand le Seigneur nous dit que l'Esprit Saint est à la fois le conseiller ou est le défenseur, hein, c'est bien aussi parce qu'il a pour tâche de repousser l'ennemi loin de nous. nous invoquons le grand Saint-Michel Archange, et je ne peux que vous y inviter, mais il faut bien comprendre aussi que la mission de l'Esprit-Saint, hein, c'est cette mission qui de repousser loin de nous, hein, l'ennemi. C'est la vive lumière de Dieu, c'est cet immense esprit de charité, et du coup, rien ne peut tenir sous sa force, sous son regard. Donc, repousse l'ennemi loin de nous, et c'est surtout, nous demandons l'aide de l'Esprit-Saint. C'est une invocation indirecte des dons du Saint-Esprit. Donne-nous ta paix, hein, la paix, et puis pour que nous puissions éviter le mal et toute erreur. C'est vraiment le rôle de l'Esprit-Saint d'éviter d'abord les erreurs, puisqu'il est l'Esprit de vérité, mais qui c'est qui a intérêt à l'erreur ? Le démon, que le Seigneur Jésus appelle le père du mensonge. Donc du coup, l'Esprit-Saint doit être invoqué aussi pour que nous évitions le mal dans notre combat contre le péché et que nous évitions aussi l'erreur qui nous permettrait d'avoir des idées mauvaises sur le bon Dieu. N'oublions pas que c'est la première demande du Notre Père, que votre nom soit sanctifié, ou encore le cœur du Magnificat, saint est son nom. Pour que la sainteté de Dieu rayonne en nous, il faut que l'Esprit-Saint fasse la lumière, et une lumière qui dissipe toutes les ténèbres de notre monde. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. On sent que là, l'hymne arrive à la fin, puisqu'il y a toujours cette forme de doxologie qui arrive à la strophe suivante. Hein, gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Important là de voir comment la théologie trinitaire est manifestée. Fais-nous connaître le Père. Je vous rappelle que les apôtres, un peu quand le Seigneur Jésus leur parle avant de vivre la Pâque, le conduisant de la mort à la vie, il y a Thomas qui a toujours entendu le Seigneur Jésus parler du Père, qui m'a vu, a vu le Père, et qui demande, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Thomas a bien compris que le Seigneur Jésus, parlant avec immensément de charité de Dieu son Père, mais finalement ils ont envie de voir le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Ah ben, de fait, cela nous suffira pour l'éternité. Mais voilà ce que nous demandons à l'Esprit-Saint, de nous faire connaître Dieu le Père, de nous révéler davantage toujours le Fils. Parce que le Fils, nous le connaissons, mais qui se révèle toujours comme le Fils. Pas simplement le Jésus caché dans son humanité, mais qui puisse vraiment nous conduire à la manifestation de sa divinité. Et toi, leur commun esprit, hein, il procède du Père et du Fils, c'est l'Esprit et du Père et du Fils, l'Esprit Saint, fais-nous toujours croire en toi, en ton pouvoir, en ta force. Voilà pour le Veni Creator. Nous regardons à présent le Veni Sancte Spiritus, qui est donc cette invocation de l'Esprit Saint, je l'ai dit, juste avant de lire l'Évangile de Pentecôte. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Il n'y a pas grand-chose à commenter, hein, mais c'est vraiment, on invite l'Esprit Saint à venir. Alors, pas à venir comme au jour de la confirmation, mais à raviver en nous sa présence. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Alors, lumière de nos cœurs, nous comprenons, hein, puisque nous sommes le temple de l'Esprit Saint, c'est lui qui illumine, hein. Vous êtes la lumière du monde, nous dit le Seigneur. On est la lumière quand vraiment l'Esprit Saint aussi agit en notre âme. Dispensateur des dons, on comprend bien, puisque c'est lui qui nous donne les 7 dons sacrés. Mais dans l'idée aussi de dispenser, c'est joli parce que dispenser, c'est donner comme progressivement. C'est, il me semble, Saint Paul ou Saint Pierre, je ne sais plus, en tous les cas, devant de telles colonnes, peu importe d'où ça vient, c'est un enseignement sûr. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui nous dit que Dieu nous a nourris un peu comme des petits-enfants au lait, c'est-à-dire on ne peut pas tout lui donner tout d'un coup. Il faut que nous puissions le digérer, mais je trouve que c'est beau dans cette image de dispensateur des dons, de dispenser les dons petit à petit, parce qu'il y a bien cette idée du coup de croissance dans la vie chrétienne. Mais ce qui est très beau, c'est cette appellation « Père des pauvres ». Dans l'Ancien Testament, le petit reste d'Israël, ce sont toujours des pauvres. D'ailleurs, chaque fois que la Sainte Vierge ou le Seigneur, dans leurs apparitions, s'adressent à des âmes privilégiées, elles sont toujours manifestes et reconnues par leur pauvreté. Nous pensons à la pauvreté de Bernadette Soubirous, la pauvreté de Jeanne d'Arc, la pauvreté d'Anglaise de Sagazan à Garaison, la pauvreté des bergers de Fatima, etc. Ou même encore, dans l'Ancien Testament, hein, le roi David, hein. Le roi David, il est en train de garder son maigre troupeau. C'était pas non plus quelqu'un de très riche et d'aisé. Le père des pauvres. Pourquoi le père des pauvres ? Parce que en ayant cette tonalité fondamentale de la pauvreté, qui est une en vertu, qui est l'humilité, bien voilà que l'Esprit Saint, quand on se reconnaît petit et humble, peut véritablement manifester toute la grandeur de Dieu. C'est une très belle appellation que de dire que l'Esprit-Saint, c'est le Père des pauvres. Heureux les pauvres de cœur, nous dit le Seigneur dans les Béatitudes. Ensuite, troisième strophe, consolateur souverain. Il est Dieu, hein, il y a une souveraineté qu'exerce l'Esprit-Saint, une souveraineté dans la consolation. Et c'est très beau aussi de se dire, Dieu est à la fois Père, Dieu est Fils, et l'Esprit, ben, c'est un esprit de consolation. Dans les tribulations de ce monde, nous avons besoin d'être consolés, c'est-à-dire d'être compris, d'être suffisamment aimé pour être replacé, si vous voulez, dans le monde et ne pas désespérer. Voilà, l'Esprit-Saint, c'est vraiment le contraire de la désespérance. C'est cet esprit d'espérance qui ne nous fait pas désespérer malgré les tribulations de notre monde. Donc, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes. Et ce n'est pas simplement une vague idée, cette idée de douceur. Hein, le Seigneur est présenté dans l'Évangile en disant « Je suis doux » et humble de cœur. Alors, humble de cœur, on vient d'en parler, le Père des pauvres, mais la douceur est vraiment un des fruits de l'Esprit-Saint. Hein, la douceur, hein, elle permet, si vous voulez, cette douceur, c'est un peu comme la bienveillance, vous voyez, c'est quelque chose qui enrobe et qui accompagne tout. C'est l'hôte très doux de nos âmes. L'Esprit-Saint, certes, c'est le feu, mais ce n'est pas un feu qui vient nous brûler, c'est le feu qui vient réchauffer notre âme. Que disent les disciples d'Emmaüs ? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand ils nous commentaient les Écritures, alors qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur ? Vous voyez là l'œuvre aussi de l'Esprit-Saint, hein, qui dans leur cœur, leur a fait confesser, à travers cet étrange pèlerin d'Emmaüs, qu'il s'agissait du Christ. Donc il y a cette douceur, hein, de l'Esprit-Saint, qui est l'hôte de nos âmes. Hein. Nous sommes le temple de l'Esprit-Saint. Et le mot « hôte » est très important, parce qu'il y a une ambiguïté dans notre langue française. Nous appelons autant l'hôte celui qui nous accueille que celui qui est accueilli. Eh bien, voyez que dans cette dualité, hein, il y a bien ce rôle et cette mission de l'Esprit-Saint. Adoucissante fraîcheur. Alors nous, on ne comprend peut-être pas, dans nos régions montagneuses qui ne sont pas toujours immensément chaudes, on ne comprend pas cette image de la fraîcheur. Et bien souvent, dans la traduction même du Missel romain, on a remplacé l'idée de fraîcheur par la lumière. Non, non, il y a, hein, ce sont des peuples berbères qui vivent dans le désert, il fait à la fois très chaud le jour, mais il y a cette idée de la fraîcheur. Comment la fraîcheur peut venir, dans une journée après épuisante, et bien venir nous rapporter un peu de consolation, de fraîcheur. Enfin, voilà, il vient nous redonner un peu de force. Et puis ensuite, là, la séquence donne des images. Dans le labeur, le repos. Dans le labeur, ben voilà que l'Esprit-Saint, c'est le repos dans l'esprit. Dans la fièvre, on voit bien la fièvre du péché, la fièvre de ce monde, la fraîcheur. Voilà, l'Esprit-Saint et la fraîcheur. Et dans les pleurs, l'Esprit-Saint et le réconfort. Ensuite, on invoque l'Esprit-Saint, lumière bienheureuse, vient remplir, mais attention, jusqu'à l'intime, le cœur de tout est fidèle. Et je vous ai dit tout à l'heure combien Dieu, hein, nous invitait à être amis et nous invitait à cette intimité, intimité sponsale d'une image de la relation de l'époux, qui est le Christ, à l'épouse, qui est l'Église. Donc, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout est fidèle. Et enfin, reconnaissance de l'œuvre de l'Esprit-Saint, sans ta puissance divine, il n'est rien. En aucun homme, rien qui ne soit perverti. L'Esprit-Saint, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui fait que tout est conduit à sa sanctification, tout est conduit à son achèvement. Nous avons vu avec quelle bonté la création est faite. On avait vu que la bonté était la conjugaison de cet amour de Dieu et également du bien. Eh bien, voilà que l'Esprit-Saint, il est là pour tout conduire tel que Dieu l'a voulu. Et lorsque la fin n'est pas celle que Dieu a voulu, c'est l'œuvre du démon. Donc, on demande à l'Esprit-Saint de nous aider à ce que rien en nous ne soit perverti, et c'est ainsi que continue l'hymne. On demande à l'Esprit-Saint de laver ce qui en nous est souillé, parce que le péché nous souille, de baigner ce qui en nous est devenu aride, hein, notre cœur peut des fois devenir sec. Nous pensons à l'image chez Ézéchiel du cœur de pierre qui doit être transformé en cœur de chair. Et bien voilà que quand l'Esprit-Saint n'est pas dans une âme, c'était l'image du curé d'Ars et de l'éponge, il y a quelque chose qui manque en nous. Guéris ce qui est blessé. Et on voit bien quand on a quand on est blessé de par des situations ou par des personnes, il y a eu l'acte d'être blessé, mais ensuite il y a les jours et les semaines et voire les mois après, quelque chose qui a du mal à guérir, hein, du mal à pardonner. Et bien voilà que l'Esprit Saint, il vient guérir profondément tout ce qui est blessé. Assouplit en nous ce qui est raide, parce qu'il y a des choses qui peuvent tenir des fois de notre caractère ou de la façon dont nous avons été élevés, etc. Bien, on demande à l'Esprit Saint, dans les choses qui sont trop raides, c'est l'image un peu du chêne et du roseau, hein, vous savez, le chêne qui se vante d'être fort et de tenir dans la tempête et qui se moque du roseau en disant « Mais toi, dès qu'il y a un souffle de vent, tu ploies. » Oui, peut-être, mais quand il y a la grande tempête, seul le roseau se relève. Donc, vous voyez que la souplesse est importante et l'Esprit Saint doit venir nous aider à nous assouplir. Assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid. On comprend bien, hein, quand notre cœur peut devenir blasé dans ce monde, eh bien, il vient réchauffer, rend droit tout ce qui a été faussé. Et là, on retrouve bien, hein, l'image qu'on avait dans le Veni Creator de l'Esprit Saint qui vient repousser loin de nous toutes les ruses et toutes les conséquences de l'ennemi qui nous assaille. Et enfin, les deux dernières strophes, à tous ceux qui ont la foi. Nous sommes des fidèles, hein, nous sommes animés par la foi. Et qui en toi se confient. Et oui, parce que l'Esprit Saint devient un confident. Donne tes sept dons sacrés. Hein, les sept dons du Saint-Esprit. Et ensuite, on lui demande, en plus de ces dons, de nous donner le mérite nécessaire. Hein, pour pouvoir vivre de la grâce. Hein. Il y a la grâce et le mérite, mais donne-nous le mérite. Donne-nous la vertu, en nous faisant justement arrêter le chemin du vice. Donne-nous le salut final. Donne-nous la joie éternelle. Voilà un peu dans ces deux hymnes, hein, que je vous donne, que vous devriez réciter régulièrement, car ce sont des prières qui sont placées dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique comme des prières fondamentales du chrétien, eh bien voilà, puisse l'Esprit Saint nous remplir chacun de sa vive lumière.